Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour, je m'appelle Denis Chagnon et je suis ravi de vous retrouver pour Marcher vers le bien-être. En première partie d'émission, c'est avec un plaisir renouvelé que nous accueillons Diego Herrera, de son nom d'artiste Yayo. Auteur et artiste visuel reconnu mondialement, Diego est sans contredit l'un des illustrateurs les plus remarquables du Canada. Il est depuis longtemps spécialisé en dessin d'humour, notamment de contes pour enfants. Lors de l'épisode du 24 mars 2023, que je vous invite d'ailleurs à réécouter via le site jemarchepartout.com, nous avions découvert en Diego un humaniste d'une grande sensibilité. Tout en douceur, il nous avait parlé de l'influence de la marche dans son processus de création artistique. Dans son plus récent ouvrage, Diego affiche pour la première fois un engagement envers certaines causes qui le tiennent à cœur, dont la protection de l'environnement. Avec perspicacité, tendresse et poésie, son nouvel album intitulé SOS Eau met en scène un marin nommé Lalo et un poisson rouge nommé Rosa. En parole et surtout en image, nous suivons Lalo qui transporte Rosa dans son bol de verre aux quatre coins du monde, à la recherche d'un plan d'eau idéal pour son ami poisson. Mais malheur, tous les endroits qu'il visite sont jonchés de bouteilles d'eau en plastique. Cela est d'ailleurs le thème de SOS Eau, dont nous allons nous entretenir avec Diego dans quelques instants. En deuxième partie d'émission, Michel Cousinat-Baudet nous présente le deuxième volet de la saison de sa chronique « Le corps en marche ». Lors du premier volet de sa chronique, elle nous avait parlé de l'importance d'une bonne démarche. Aujourd'hui, elle nous indique comment améliorer notre démarche. Comme toujours, vous pouvez retrouver le texte de sa présentation sur le site jemarchepartout.com sous l'onglet Radio-VM. Pour l'instant, je m'empresse de souhaiter la bienvenue à Diego Herrera. Bonjour Diego, et merci d'être venu nous voir pour nous parler de ce grand voyage de Lalo et de Rosa à la recherche de petits paradis perdus.
Bonjour Denis, et merci beaucoup de votre invitation. De faire un plaisir de partager avec les auditrices et auditeurs le petit dernier.
Voilà. Alors, j'ai mentionné en début d'émission que lors de votre première visite, vous nous aviez parlé de l'influence de la marche dans votre processus de créativité. Alors, pour reprendre un peu le fil de la conversation, rappelez-nous comment, justement, la marche stimule la créativité chez vous.
La marche joue un rôle très important dans mon quotidien et dans les processus de création, dans le sens que ça me permet de réfléchir, de voir, de percevoir différemment. Les bénéfices de la marche, ça me permet aussi de décompresser et de voir le monde différemment et de mettre en perspective certaines choses. Et on dirait que tout est possible quand on marche.
Alors, j'ai aussi mentionné en ouverture, Yayo, que votre nouvel album intitulé SOS Eau, il marque une nouvelle étape dans votre évolution d'artiste, comme si votre sens de l'observation, justement, s'était porté ailleurs. Est-ce le cas?
C'est porté vers des causes qui sont importantes, très importantes à l'heure actuelle, notamment l'environnement. Et aussi, je travaille sur des projets d'implication sociale, par exemple, les personnes sans-abri, itinérantes, et la cause des femmes et les femmes, les sorcières.
Les sorcières.
Ouais, les sorcières d'autres temps, d'autrefois et d'aujourd'hui.
Ah, oui.
Et donc, la sorcière dans les vraies sens de sorcière. Donc voilà, donc ça sont des sujets, et parmi d'autres qui m'interpellent, et je trouve que c'est important de me servir de mon art, de mon savoir-faire pour travailler dans, pour apporter quelque chose.
Mm-hmm. Alors, parlez-nous justement de SOSO. Racontez-nous un peu l'histoire de Lalo et de Rosa.
Oui, c'est une histoire qui a commencé en marchant, dans le sens que c'est en marchant que j'ai commencé à remarquer les bouteilles plastiques. Mm-hmm. Jonchées un peu partout. Et souvent, les plus souvent, ce sont des bouteilles qui contenaient de l'eau. Et
oui.
Puis, et parfois, des bouteilles qui ont encore de l'eau, ce qui est encore plus terrible. Et, donc, j'ai remarqué cette pollution et ce gaspillage, cette absurdité. Et puis, qui, en plus d'être tout ça, c'est laid. Ça rend n'importe quel paysage, quel lieu laid, mm-hmm. parce qu'il est salisse avec sa présence. Donc, la marche m'a permis de constater cela. Puis, j'ai fait d'abord un premier dessin. Qui est inspiré par les bouteilles en plastique. Et c'est un dessin qui montre une petite chaloupe avec un marin et un bocal d'eau, un bocal avec un poisson rouge, mm-hmm. et flottant. Et c'est un qui essaie d'avancer sur une mer faite de bouteilles d'eau, mm-hmm. plastique.
Oui.
Et c'est aussi, en faisant référence au style du plastique, la plus grande qui est aussi grande que le Québec, et 4-6 fois la France, fait des déchets en plastique. Alors, c'est, malheureusement, en plus, ce n'est pas la seule. Sur les océans. Il y en a qui sont comparables et ailleurs. Puis, donc, faire ces premiers pas, ces premiers dessins, c'était un exercice de patience et un peu comme quand on fait une marche, un grand chemin, une étape sur le chemin de Compostelle ou ailleurs. Et donc, ça prenait un premier pas, une première bouteille et des. Comme ça, ça fait des milliers de bouteilles. Mm-hmm. Pour faire ces dessins, les dessins finaux, après les croquis, et ça m'a pris plusieurs jours. Je l'ai passé par étapes, finalement. Donc, dès là, j'ai trouvé aussi l'analogie entre la marche et en tant que fait des petits pas qui se multiplient, qui nous amènent des kilomètres plus loin, des milliards de kilomètres. Et de la même façon, une bouteille d'eau. Ces gestes qui a l'air anodin et répétés des millions de fois par jour, partout par la planète, ça fait des milliards de tonnes de pollution. Puis, nous, les marcheurs des petites distances et des longues distances, nous laissons des traces, des empreintes sur l'eau, et même mm-hmm. en marchant sur terre. Hein.
Mm-hmm. Vous parliez de Compostelle. C'est là que vous avez remarqué plusieurs bouteilles, justement, qui jonchaient le sol. Est-ce que cela vous a surpris dans un endroit où une activité qui est intérieure, un peu spirituel, à la recherche de soi, de voir tellement de déchets autour de vous?
Oui. D'abord, quand j'ai marché, j'ai commencé à ramasser quelques sons de ce voiture, je me suis dit, bah, c'est un accident, parfois ça tombe, ça arrive. Mais là, de plus en plus, il y en avait d'autres, 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 au point que ça ralentissait ma marche. J'en avais plus de la place non plus pour, dans mon sac à dos, dans des sacs. Donc, c'était surprenant. Et je me disais, peut-être, c'est le fait que la bouteille d'eau plastique est devenue si omniprésente qu'on pense que c'est quelque chose de normal, naturel, et que ces gestes de la laisser tomber n'importe où est presque innocent ou inconsciemment, on le fait par. Par inconscience ou par un certain confort, c'est plus facile de jeter quelque chose qui les portait sur soi jusqu'à la prochaine place où on aurait pu les essayer de les recycler ou au moins les mettre dans une place plus appropriée. Alors, je me disais, est-ce que comment ça se fait qu'en faisant une marche de pèlerinage ou même une marche simplement sportive, on jette des bouteilles d'eau en plastique.
Oui.
Est-ce que ça, il y a pas une certaine contradiction entre cette espèce de nettoyage intérieur qu'on fait lors d'une marche et salir la terre et l'eau, parce que ces bouteilles d'eau se retrouvent sur les cours d'eau, finalement, et sur la mer.
Il y a une espèce de manque de cohérence, là.
Exactement. Je pense que autant les pèlerins que les promeneurs ou les randonneurs doivent avoir une attitude cohérente, intégrale. On ne peut pas essayer de se dire « Ah ben, ça fait du bien ». À mon être intérieur.
Mon intérieur, oui.
Et en même temps, on est en train, de façon très sportive, de salir la planète. Alors, je pense que c'est notre démarche intérieure doit être une démarche qui se voit à l'extérieur aussi, avec des actions concrètes et qui ne sont pas très difficiles finalement. Ça. Avoir une gourde en métal, ça fait du bien, ça dure plus longtemps. Et ça, on est capable de le faire. On vit dans ce monde où la publicité, la innovante, le confort constant. Des gens qui. On nous vante la liberté avec la voiture individuelle, et ce qui est faux. Mais en plus, on nous vante le confort des millions d'acheter des centaines de bouteilles plastiques avec de l'eau. Comme une façon de plus facile de vivre qui de remplir la bouteille à métal avec de l'eau de robinet. Ça.
Oui, oui. Alors, lorsque vous, sur Compostelle ou ailleurs, même en marchant dans la ville, vous avez vu toutes ces bouteilles d'eau et autres bouteilles de plastique, j'imagine que ça vous a attristé un peu, ou choqué, ou attristé, je ne sais pas.
C'est les deux. ça me choque et ça m'attriste. Du fait d'amocher. D'abord, il y a une impression esthétique en tant qu'artiste visuel, ça frappe.
Oui.
Et aussi, ça triste du fait de voir autant de personnes censées d'être éduquées, conscientes, en train de les faire de façon si automatique.
Alors, c'est ce qui vous a inspiré justement à créer ce personnage de Lalo et avec son petit poisson rouge dans le bol de verre de Rosa et qui a inspiré justement ce conte SOSO. Alors, quelle est l'histoire? Racontez-nous ce qui se passe dans le livre, ce petit voyage de Lalo et de Rosa.
Oui. Ah, et à partir d'une image, c'était celle de...
Du pêcheur,
des
là.
Du pêcheur, oui. Du marin.
Oui, du marin, oui.
Du marin, c'est ça. Là, c'est un dessin qui a été publié il y a déjà une dizaine d'années et plus, dans la revue...
L'actualité, je crois, oui.
C'est ça. Et plus tard, c'est un dessin qui a été primé et dans les salons internationaux de la caricature Porto Cartoon, à Porto,
au Portugal. Oui.
Et, donc il y a eu une certaine visibilité. Et là, j'ai constaté que c'était pas assez. Et tout est passager finalement. On oubliait très rapidement. Alors je me suis dit, un livre a tendance à rester davantage. Et c'est mon métier aussi. Alors, pourquoi pas raconter une histoire plus longue? Déjà, j'avais...
Vous aviez le personnage déjà. Oui. C'est ça, oui.
Et j'avais fait des expositions en utilisant des bouteilles d'eau plastiques inspirées par ces dessins. Et dans des maisons de la culture, dans des endroits où... un public là a pu les voir et je me disais il faut aller plus loin,
c'est toujours pas assez, hein,
c'est ça. Donc je commençais donc à faire davantage des croquis et à raconter et un voyage à ces personnages avec un petit poisson rouge qui est paradoxalement l'animal vient nous humaniser et rendre l'histoire plus touchante. Et puis, en même temps, ça nous fait poser des questions par rapport à les rapports quand on entretient avec nos animaux de compagnie, par exemple, et des autres animaux sauvages. Donc, de fil en aiguille, c'est devenu un voyage, finalement. C'est encore une espèce d'allégorie au voyage de la vie, à la marche. Et c'est drôle parce que du moment que Lalo, le personnage principal, il cherche un lieu approprié pour Rosa, un endroit propre, il n'arrête pas de marcher. C'est, finalement, ils se promènent souvent.
Il fait le tour du monde presque.
Oui, c'est ça. Et là, ça permet d'aller plus loin dans la réflexion, parce qu'on constate, et moi je le constate lors de mes voyages, comment la bouteille plastique est omniprésente, il est partout, et autant dans les pays soi-disant développés que les pays en voie de développement, ça...
Il y en a partout.
Oui.
Alors, si on fait le décompte, on trouve sur l'Internet, par exemple, des statistiques qui nous montrent qu'il y a 4 milliards de bouteilles plastiques tous les jours vendues à travers la planète. C'est énorme.
C'est énorme.
Alors, on les voit partout, effectivement. Donc, il y a Lalo et Rosa qui font le tour du monde, qui voient des bouteilles partout. Et il y a des images très intéressantes dans votre livre. Par exemple, il y a des canetons sur un étang. Qui suit la maman, canard, et les canetons, ce sont des bouteilles de plastique.
Oui.
Et il y a des bouteilles de plastique sur la Seine, par exemple, il y a un bateau mouche, c'est en forme de bouteille de plastique. Donc, c'est une façon d'illustrer l'omniprésence des bouteilles de plastique un peu partout dans le monde.
Oui, et du plastique. Et comme vous venez de mentionner, les bateaux mouches, et celui-là, il est fait majoritairement en plastique. C'est les grandes fenêtres, etc.
Oui.
Donc, le plastique qui est omniprésent, bien sûr, de façon plus aberrante, en forme de bouteille plastique pour contenir de l'eau. De l'eau qui Et très souvent, et même pas de l'eau des sources, et même s'il a arrêté, comme c'est le cas des fois, mais et au Québec, par exemple, 25% de l'eau qui est vendue dans les bouteilles en plastique vient du robinet.
Mmh, oui, alors, tout à fait. C'est, oui.
Et puis, les bouteilles, une fois qu'ils sont, les lots, une fois qu'ils sont dans le plastique, des études démontrent qu'ils ont plein de particules, de plastique en plus. Donc, quand on pense que c'est parce que ça va être plus propre, parce que ça va être mieux de boire de l'eau qui vient d'une bouteille de plastique, encore, c'est trompeux.
C'est trompeur, c'est ça. Oui, c'est trompeur. Oui, tout à fait, oui. Parce que c'est tout le phénomène de la commercialisation de l'eau, justement.
Oui.
Alors, avons-nous vraiment besoin d'acheter de l'eau en bouteille alors que l'eau est disponible à même le robinet, par exemple?
Oui, tout à fait. Donc, ça nous amène, cette marche nous amène à réfléchir ou à se questionner sur plusieurs de nos comportements qui sont induits par la société de consommation qui n'est pas, qui n'a aucun respect par la nature, par l'environnement, par ces petites planètes où finalement nous sommes tous là les dents. Alors, il n'y a aucun profit qui puisse justifier et de détruire la planète qui est à nous tous. Alors, aucune richesse va nous mettre à l'abri de ce qui est en train de vivre, des ouragans, des inondations, des réchauffements planétaires. Alors, ce sont tous des raisons qui m'ont poussé à faire de ce livre une espèce d'émission, plus que simplement faire un livre, c'est d'apporter quelque chose, un peu comme dans les contes, dans l'histoire du petit l'oiseau.
Ah oui, le colibri.
Oui.
Le colibri, oui. Oui, parce que on reviendra au colibri hein, tout à l'heure, parce que c'est une très belle image. Le conte, encore une fois, S-O-S-O, vous parlez de l'omniprésence de la bouteille de plastique sur la planète et il y a quand même des images assez saisissantes. La baleine, par exemple, qui est une amie de Lalo, la baleine Bettina, qui souffre beaucoup et Lalo et ses amis vont à la recherche de la source de la souffrance. Ils font un petit voyage à même la baleine, ils ouvrent la bouche, on va dans la baleine et on ressort avec des sacs et des sacs de bouteilles d'eau encore. C'est la bouteille d'eau qui est une source de malaise et de mort souvent pour les animaux.
Oui, les déchets plastiques et on les retrouve dans les ventres des oiseaux et des mammifères marins. Et puis finalement, on commence à les retrouver à l'intérieur de nos organes.
Mm-hmm. Et les microplastiques, les micros, c'est ça, oui.
Parce que finalement, une bouteille d'eau plastique qui, soi-disant, se décompose à l'intérieur des 450 ans, plus ou moins, il ne finit pas là. Il continue à polluer de façon sournoise en forme de microplastiques. Alors, ça, c'est très dissimulé. Cette forme de pollution est très présente. Je pense qu'on doit parler davantage, même dans les écoles. Déjà, les enfants doivent être conscientisés, éduqués pour qu'ils deviennent des adultes qui agissent de façon responsable. Alors, c'est quelque chose qui est une bombe de temps qui est en train de tranquillement exploser et qui, bien sûr, l'industrie qui est derrière ça n'a aucun intérêt à parler de cela. Mais nous, individuellement et en tant que communauté, on doit faire des actions concrètes. Et qu'on soit un artiste, qu'on soit musicien ou n'importe quel domaine, boulanger, épicier et mécanicien, tout le monde, on est responsable et on peut agir. De la même façon qu'un premier pas nous amène loin et une première bouteille d'eau plastique qu'on n'achète pas et un deuxième, un troisième, si on multiplie ça par les millions de personnes qui, au quotidien, en achètent, ben ça fait à la fin une différence.
Mmh. Alors justement, quels sont les autres gestes que l'on peut poser devant ce qu'on peut appeler quand même une catastrophe environnementale?
Oui, la première chose, c'est de se servir de l'eau des robinets. On habite dans un pays où un peu partout, l'eau des robinets est potable. Et il y a des endroits où il faut faire attention, il faut être réaliste, mais c'est l'exception, c'est moins commun. Et donc, dans la mesure du possible, de l'eau de robinet dans une bouteille réutilisable, en métal, parce que les bouteilles d'eau plastique qu'on réutilise, ce n'est pas très santé, pour plusieurs raisons. Ça dégage des microplastiques, etc. Puis, et donc, en achetant le moins possible, donnant les bons exemples, les institutions, les écoles, par exemple, les entreprises, ils peuvent aussi faire leur part. Par exemple, l'Université Laval ne vend plus dans les campus de bouteilles d'eau plastique. Mmh. C'est très bien. Et puis, en tant qu'individu, on peut écrire à nos élus pour pousser des lois, des mesures concrètes aussi pour limiter ces flux. Et on peut devenir membre des organismes qui travaillent pour l'environnement, comme Greenpeace, entre autres. Ici au Québec, il y a un organisme qui travaille pour l'eau. Au secours, ça s'appelle. Très bien, super bon jeu de mots. Alors, une implication qui n'écoute pas beaucoup, qui coûte un petit investissement de temps, ou même une fraction de ce qu'on aurait dépensé en croustilles ou en bouteilles d'eau plastique achetées par année. Donc, 25-50 $ par année, ce n'est pas beaucoup comparativement, et ça fait un investissement pour l'environnement, notre mère Terre aujourd'hui, mais aussi pour nos enfants et les générations à venir. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qu'on va laisser comme empreinte écologique? Et c'est là les liens aussi entre pourquoi on parle de eau aujourd'hui quand on parle de la marche. Est-ce que c'est pour marcher sur l'eau? Oui, ça fait une empreinte nulle. Façon de boire de l'eau lors de nos marches a une empreinte sur l'eau, une empreinte écologique. Donc, c'est là et c'est pour ça que j'apprécie énormément, Denis, et votre invitation pour venir parler du rôle de la bouteille d'eau plastique qui est symbole des autres pollutions plastiques. Aujourd'hui, dans une émission qui est dédiée à la marche pour le bien-être. Et c'est tout à fait cohérent et je trouve ça très bien parce que beaucoup de personnes qui nous écoutent sont des marcheurs et des personnes qui ont une conscience écologique et qui certainement vont pouvoir prendre des actions concrètes. Autant au niveau de l'utilisation de l'eau lors de nos marches, comme ça, mais aussi de notre comportement en tant que marcheur, parce que les déchets en papier, les croustilles qu'on jette, parce que ça vient du plastique aussi, c'est pas recyclable. Oui. Et alors, ce sont des réflexions qui demandent des actions. Des actions autant au niveau individu qui, à certains égards, on dirait « Ah ben ça sert à quoi? Moi, c'est le seul qui l'ai fait, non. » Des millions de personnes qui multiplie des actions comme ça, ça fait une différence. Et puis, et les actions qui ont macro-action, disons, notre implication, les actions qui ont demandé à être faites par nos élus. Et on vote aussi en conséquence, et ça fait une différence. C'est ces élus aussi qui vont avoir de la parole pour proposer des lois et des mesures qui vont déterminer aussi des changements au niveau des entreprises, les multinationales qui sont derrière la bouteille d'eau, les plastiques, les commercialisations du plastique, de l'eau, pardon, et du plastique. Derrière ça, il y a l'industrie du carburant, du pétrole. Alors, c'est pas si innocent. Et une autre mesure concrète, c'est de s'éduquer, d'aller chercher de l'information. Et nos bibliothèques ont beaucoup de livres et de documentaires qui nous parlent de l'utilisation de l'eau et de l'environnement de façon très conviviale et des mesures concrètes. Alors, à l'heure actuelle, c'est important qu'on est en guerre. Il y a une espèce de guerre contre la nature. Alors, il faut choisir les bons camps et les défendre, et pas les descendre. Là, et parce qu'il y a une partie de l'humanité qui a choisi les camps de son profit égoïste et individuel. Et en tant qu'entreprise, et qui a pas de soucis pour la planète. Un peu comme si les actionnaires, les propriétaires de ces entreprises vivront dans une autre planète. On dirait je les invite à réfléchir sur la sort qu'ils souhaitent pour ces enfants, ces petits-enfants. Finalement, ils vont être dans les mêmes... Ils subissent les mêmes vagues de chaleur, des records de chaleur à chaque année.
Tout à fait.
Alors, voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai fait ce livre.
Donc, et la bouteille d'eau dans le livre, c'est davantage un symbole aussi que vous venez d'expliquer.
Oui, et on parle beaucoup de bouteilles d'eau lors de cette émission et on les nomme comme telles. Et dans les livres...
On n'en parle pas du tout.
Non, nulle part, il y a les mots bouteilles d'eau, plastique.
Jamais.
Oui. Et d'abord parce qu'elle est très présente pratiquement dans toutes les pages, il est dessiné.
Oui.
Donc il est déjà, le dessin est une forme d'écriture, donc il est déjà là, mentionné. Il est évident des milliards de fois. Ça m'a pris, vraiment c'était du travail zen. Parce que j'ai dessiné chacune de ces bouteilles à la main, une à la fois. Et puis, donc, elle est mentionnée. Et puis, en forme de dessin, mais aussi, c'est une façon d'inviter les lecteurs et les lectrices à les voir, à les lire, à forme de réflexion, c'est-à-dire à les retrouver sans qu'ils... On a eu besoin d'essayer de faire de la morale, de faire une espèce de pédagogie. Donc, c'est un livre où la poésie et la satire, l'humour, communiquent plus que l'accusation. Qui est la culpabilité. Et je pense qu'on est capable de réfléchir et de prendre des mesures de comportement responsables sans qu'on nous frappe sur la tête, simplement en partageant une espèce de marche poétique sur l'eau.
C'est très joli comme image. Vous parliez tout à l'heure du colibri comme exemple d'action que l'on peut prendre. Le colibri, il est illustré au tout début du livre avec une goutte d'eau, justement, au bout du bec. Ça représente quoi?
Oui, c'est un clin d'œil au conte, cette légende autochtone et qui nous parle d'un incendie dans la forêt, des incendies qui sont de plus en plus courants. Et les animaux de la forêt sont partis, bien sûr, se réfugier ailleurs. Et là, parmi les animaux, il y avait une colibri qui était en train de utiliser son bec pour porter de l'eau et aller éteindre les feux. Alors, il y a des animaux qui lui ont dit, écoutez, ça ne sert pas à grand-chose. Un petit goutte d'eau, c'est quoi? C'est ridicule. Ça sert à quoi? Alors, il a dit, écoute, chacun fait ce qu'il peut.
Oui.
Alors, c'est la même attitude qu'on peut trouver. Alors, pourquoi moi, en tant que je ne suis pas le propriétaire des multinationales qui font le commerce de l'eau, je ne suis pas l'actionnaire, le propriétaire des multinationales, des entreprises qui font des hydrocarbures, vous savez, le pétrole, pour faire du plastique. Mais chaque action compte, comme vous l'avez mentionné, des trillions de bouteilles d'eau, des bouteilles en plastique par jour. Si chacune de ces personnes qui achètent de l'eau comme ça, on les multiplie par des millions des actions, ça fait des trillions de bouteilles d'eau ou des bouteilles en plastique de moins. Et c'est là, la petite goutte, les petits premiers pas font une différence. Donc, et bien sûr qu'en parallèle, il y a des actions, macro-actions à entreprendre, bien sûr. Et c'est ensemble qui ont fait les changements en tant qu'individu et en tant que membre d'une communauté. Et c'est dans ce sens-là que j'ai fait, j'ai mis les colibris. C'est parce que chaque personne a un rôle à jouer, chacune à sa façon.
Et à la fin du compte, Lalo a trouvé l'endroit idéal, le petit paradis pour Rosa dans un étang.
Oui.
Et on ne voit aucune bouteille d'eau.
C'est ça.
C'est l'image parfaite.
Oui, c'est une image magique. Et là, c'est lui qui lui propose de venir à cet étang. C'est une naine des jardins. C'est un personnage, un gardien de la terre, les naines des jardins, les nains, les lutins. Et c'est un personnage de l'imaginaire. Et pourquoi c'est lui qui propose un étang magique? Parce que malheureusement, les vrais étangs, les autres, sont très difficiles de trouver pour mettre un poisson rouge, un poisson exotique qui devient, pas parce qu'il est méchant, simplement c'est sa nature, il devient une espèce invasive si on les relâche dans n'importe quelle course d'eau. Alors, c'est dans ce sens-là, je voulais faire une réflexion aussi par rapport à nos rapports avec les animaux des compagnies, la responsabilité qu'on a, et par rapport à la biologie, les terrains où on peut, les jeux qu'on fait avec les espèces qu'on apporte. Ce qui est puis une espèce de mini-histoire en parallèle avec les bouteilles de plastique, mais qui était important de les mentionner parce que, encore une fois, l'animal, la bête, nous humanise. Et c'est là qu'aussi il faut le dire quand on dit « Ah, on a fait une bêtise, en fait », j'aimerais bien qu'on fasse beaucoup plus de bêtises parce que les animaux se comportent de façon plus responsable que nous. En fait, quand on fait des bêtises, c'est plus quand on fait quelque chose de bien à la façon des animaux.
Alors, en marchant, en observant, on se rend compte que les animaux ont beaucoup à nous apprendre.
Énormément.
Oui. Et au bout du voyage, Lalo est très fier d'avoir trouvé pour Rosa son petit paradis. Il a très soif, il fait chaud. Alors, il s'empresse de retourner à la maison et boire, comme vous avez dit tout à l'heure, un bon verre d'eau du robinet.
Tout à fait, oui. Et là, et les bocals, les bols qui contenaient son petit poisson rouge, il les réutilise, d'accord ? On revient sur la réutilisation, le recyclage, pour faire un bol, un saladier où il fait une super bonne salade avec de la laitue et des légumes qui viennent de les potagers communautaires où il a rencontré pour la première fois Bibo, les nains des jardins. Ouais. Alors, et je vous invite, lecteurs, lectrices, quand vous aurez les livres, à regarder les saladiers et la salade un peu en détail. Et il y a une petite surprise dans la forme, dans la forme que ces salades, ces légumes prennent. Donc, il y a aussi des surprises pour nos amis marcheurs, notamment les amis Compostelle. Et le livre a beaucoup de clins d'œil à la marche sur Compostelle et ailleurs, et des clins d'œil qui sont très évidents et quelques autres beaucoup plus subtils, pas beaucoup en fait, et vous allez les voir, donc ça fait un extra, un bonus, un petit jeu d'aller à la recherche de la présence des symboles de Compostelle ou des clins d'œil là-dedans. Mais cela dit, c'est un livre ouvert à tout le monde, finalement. C'est...
Alors, Yayo, Diego, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir présenté Lalo et Rosa et toute la compagnie que l'on peut découvrir, encore une fois, dans votre magnifique album SOSO, qui est disponible en français, en anglais et en espagnol. Et on peut l'obtenir sur un site web qui s'appelle Orca Book. orcabook.com SOSO. De toute façon, nous mettrons les références sur le site jeparchepartout.com.
Oui. Et on les trouve en librairie déjà, d'abord dans certaines librairies en anglais, parce que le livre a été publié d'abord par une maison d'édition anglophone de la côte ouest. Mais les livres, ça s'en vient aussi dans les librairies, la version en français. Et de plus en plus, ça va être plus facile de les trouver. C'est une question de gestion de la distribution. Mm-hmm. Mais ils s'en viennent. Et dans tous les cas, demandez-les à vos livreurs. Et parce que si on les demande, les librairies peuvent les commander aussi. Donc, et ils ont leur canaux. Alors, ils vont le trouver. Parfois, de façon déjà prête à les prendre. Sinon, on peut leur parler du livre et ils vont vous les chercher.
Alors Yayo, encore une fois, merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre la conversation.
Certainement. Merci beaucoup, Denis, et merci à vous, chères auditrices et auditeurs. Et bonne marche, bon cheminement et prenez un bon verre.
Un bon verre d'eau.
D'eau, des robinets.
Du robinet.
Et on peut dire qu'en français, on fait chin-chin en disant salut. Salut pour la planète, salut pour nous tous.
Santé.
Santé.
Voilà. En deuxième partie d'émission aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Cousinat-Baudet, qui nous présente sa deuxième chronique, Le corps en marche. Je vous rappelle que Michel est ostéopathe et entraîneuse certifiée au Centre de gymnastique sur table à Montréal. Bonjour Michel et bienvenue à l'émission.
Bonjour Denis.
Lors de votre dernière chronique, le 24 septembre dernier, vous nous avez démontré l'importance d'améliorer sa démarche. Aujourd'hui, vous nous proposez une approche pour améliorer notre démarche au quotidien. Comment doit-on s'y prendre?
Bien, la première étape, Denis, ça consiste à s'auto-évaluer en prenant conscience de notre posture et de la façon dont nous marchons, grâce à une observation active de notre corps en mouvement. Donc, lors de la marche quotidienne, portez attention à la manière dont vous marchez. Mm-hmm. Prenez le temps de noter vos observations. Cela vous servira de point de référence. Donc, les points à considérer dans l'observation, ça va être le confort général, le niveau d'énergie, l'alignement et la posture, et la symétrie et la fluidité. Donc, si on commence avec le confort général, le niveau d'énergie, l'idée, c'est d'évaluer si vous ressentez des tensions ou des douleurs pendant que vous marchez. Donc, essayez de ressentir vos pieds, vos jambes, votre bassin, votre dos, vos épaules, votre tête. Observez s'il y a des zones de tension, des zones de douleur, des zones de confort également. Notez si vous pouvez marcher sur une longue distance sans ressentir de fatigue excessive. Mm-hmm. Une bonne démarche améliore l'endurance et permet de marcher plus longtemps sans inconfort. Ensuite, ça va être l'alignement et la posture. Donc, de vérifier vos alignements, vérifier votre posture. Est-ce que votre tête, vos épaules, votre colonne vertébrale, votre bassin sont alignés l'un au-dessus de l'autre? Est-ce que votre corps est érigé ou abaissé? Au niveau des pieds, essayez de voir comment vos pieds se déposent au sol. Est-ce que le poids est bien réparti sous le pied? Est-il davantage sur le bord interne, le bord externe du pied? Est-ce que vos orteils repoussent le sol? Est-ce que vos orteils regardent droit devant, vers l'extérieur, vers l'intérieur? Donc, juste de noter tout ça, d'observer. On regardera également les genoux. Donc, est-ce qu'ils sont détendus, raides, verrouillés, relâchés? Est-ce que vos genoux pointent dans la même direction que vos pieds ou s'ils regardent un peu à l'intérieur, un peu à l'extérieur?
Oui, oui.
Le bassin. Est-ce que le bassin est neutre, ni incliné devant, ni incliné derrière? Ou est-il incliné vers l'avant avec le dos cambré ou plutôt dos rond avec le bassin incliné vers l'arrière? Et, tu sais, notez sans jugement, là. L'idée, c'est juste de faire l'éventail.
Parce qu'on est porté parfois à se dire « Oh, c'est pas tout à fait de la bonne façon. »
Pour l'instant, on note. On observe. On observe. Ça va être notre point zéro. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir faire les modifications, mais aussi noter dans le temps s'il y a des changements, parce qu'on va revenir périodiquement à cette auto-évaluation-là pour voir l'évolution. Si je complète, là, on va regarder aussi l'abdomen et les lombaires, donc de voir est-ce que le dos est très cambré, arrondi, est-ce que j'ai mal dans le bas du dos, est-ce que l'abdomen est relâché ou légèrement engagé pour soutenir la posture. Au niveau des épaules et de la poitrine, on veut voir si la poitrine est bien ouverte, est-ce qu'elle est affaissée, les épaules sont arrondies, soulevées, détendues, est-ce qu'il y a des tensions au niveau du cou, est-ce que les bras balancent
intéressant, oui.
De l'avant à l'arrière, est-ce que c'est un mouvement qui est naturel ou c'est quelque chose qui est un peu forcé, saccadé.
Est-ce que vous recommandez de prendre des notes, d'écrire ça dans un petit calepin?
On peut y aller dans un petit calepin, si vous avez une bonne mémoire, vous pouvez y aller aussi...
Voilà. D'accord.
À la mémoire. Si vous avez des tensions, c'est ça aussi qui va vous donner un peu le point de référence. Donc,
oui.
J'avais des tensions dans le cou, maintenant ça va mieux. Parlant du cou, oui, est-ce que le cou est érigé, un petit peu affaissé? Est-ce que vous regardez loin devant, à l'horizon, près des pieds? Est-ce que la tête est projetée devant? Est-elle au-dessus des épaules? Donc, ça, c'est des points qu'on peut observer et noter.
D'accord.
On termine avec la symétrie et la fluidité. Donc là, c'est d'analyser le mouvement. Est-ce que les mouvements sont équilibrés de chaque côté du corps? Par exemple, est-ce que vos bras et vos jambes bougent de façon égale ou s'il y a un côté qui semble moins mobile, un côté qui est plus détendu? Est-ce que votre marche est fluide ou saccadée? Le rythme est-il régulier, rapide, lent? Donc, c'est ces éléments-là qu'on va essayer d'observer.
D'accord. Alors, nous avons effectué l'auto-évaluation de notre démarche de façon très neutre, comme vous dites.
Oui.
Je pense que c'est intéressant.
Sans jugement.
Oui, sans jugement. important. Alors, ben, sommes-nous prêts maintenant à corriger notre démarche?
Absolument, Denis. Ça va être suite à ces observations, on va faire des corrections en temps réel. Donc, par exemple, redresser la tête, engager l'abdomen, détendre les épaules. Et quand vous faites un ajustement, revisitez l'auto-évaluation pour voir les changements. Parce qu'un changement à un endroit, vous allez le voir ailleurs dans le corps aussi. Donc, ça va avoir une incidence à distance.
Parce que tout est interrelié.
Tout est interrelié. Donc, le fait de ramener la tête au-dessus des épaules, ça va avoir un effet sur le cou, le bassin, les pieds, comment le poids se dépose sous les pieds. Donc, réévaluer après chaque petit changement. Et dans les ajustements, là, il y a des points à considérer. Donc, pousser le pied vers l'arrière en utilisant les muscles de l'arrière de vos jambes quand vous marchez. Par contre, faites attention de ne pas trop étirer la foulée. Donc, concentrez-vous sur la prise de pas un peu plus court, mais plus nombreux.
Et plus naturel, peut-être?
Plus naturel, oui. Ça, la foulée va dépendre de votre taille, là, entre autres, de votre souplesse également. Pensez à décoller chaque pied du talon aux orteils en utilisant les orteils pour vous propulser vers l'avant.
Une espèce de roulement.
Oui, c'est un déroulé du pied, du talon vers les orteils. Oui. Exact. Cherchez à soulever les côtes et le bas-ventre pour activer les muscles abdominaux. Créer un petit peu d'espace là, dans le centre. Maintenez la tête au-dessus des épaules. Pensez à allonger et à redresser le cou. Puis regardez à 10-20 pieds devant vous, plutôt que de regarder en baissant la tête.
Oui.
Si vous avez à balayer le sol, faites-le avec les yeux. Donc, baissez les yeux plutôt que de baisser la tête complètement. Donc, ça va réduire les risques de douleur au cou. Pensez à balancer vos bras librement à partir des épaules en utilisant le coude pour propulser vers l'avant. Un peu comme si les bras étaient une pendule.
Ah,
un
oui.
pendule articulé.
Bonne image, oui.
Là, allez-y pas avec le mouvement là, des années 80 où on balançait le bras très
la
rapidement.
Marche à l'épée.
Oui, exactement. C'est pas ça, là. C'est vraiment quelque chose de plus fluide, plus détendu.
Oui.
Et enfin, vérifiez les mains. Donc, les mains devraient être relâchées et non pas serrées en poing.
Ah, d'accord.
Des petits détails. Donc, en conclusion, là, si vous appliquez ces principes simples d'alignement et de mouvement, vous commencerez à avoir des améliorations notables dans votre posture et dans votre démarche. Souvenez-vous que ces ajustements demandent du temps et de la pratique, mais avec la patience, ils deviendront automatiques. Une bonne démarche ne se limite pas seulement à la marche. Donc, vous allez voir son influence dans l'ensemble de votre bien-être physique et même votre bien-être mental. Alors, prenez le temps chaque jour de vous observer, de corriger votre posture et d'apprécier les bienfaits de ces petits changements sur votre qualité de vie là, au quotidien. Votre corps vous en remerciera.
voilà, oui. C'est le slogan que j'adore. Oui. Et en faisant tout ça, cette auto-évaluation et en apportant des ajustements, on le fait calmement, consciemment,
oui.
Pour être bien certain que l'ajustement soit en fonction de l'auto-évaluation et qu'on soit conscient aussi des améliorations progressives.
Oui, puis il faut y aller graduellement parce que si on essaie de tout corriger en même temps, de tout contrôler, de tout tenir, ben là, on devient un peu rigide.
Mm-hmm.
Donc, puis c'est correct de faire un petit 2-3 minutes de marche où là, je pense à mon alignement ou au point que je veux corriger. Ensuite, je me laisse aller de façon plus naturelle. Parce que là, de tenir ça pendant une heure, on va finir par avoir d'autres tensions parce que la musculature n'est pas nécessairement habituée à tenir, elle est peut-être pas assez forte. Donc, d'y aller de façon progressive avec des petits intervalles, ça peut être une approche intéressante. Ou de dire, ben aujourd'hui, je travaille le déroulé du pied, puis je penserai aux épaules la prochaine fois. Là.
Ah, d'accord, oui.
Oui,
en séquence. Là,
ben,
c'est ça,
donnez-vous
oui.
une chance.
Oui.
Là.
Ben, oui, c'est ça. Oui, parce que c'est à long terme aussi.
C'est à long terme et de corriger une posture, c'est ça. C'est un travail qui se fait graduellement, qui se fait consciemment et ça prend du temps quand même.
Oui. Alors, Michel, nous avons couvert pas mal de matière aujourd'hui. Et pour nos auditeurs que cela intéresse, vous pouvez réécouter cette chronique et toutes les autres, évidemment, grâce au site jemarchepartout.com sous l'onglet Radio-VM en utilisant le moteur de recherche pour retrouver la chronique de Michel. Et vous pouvez y consulter également le texte de référence de cette chronique et de toutes les chroniques.
Oui, d'ailleurs, par rapport à la chronique d'aujourd'hui, J'ai joint un petit texte là, qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais je trouvais que ça pouvait être intéressant de faire cette auto-évaluation pour la posture debout en statique et ensuite des ajustements toujours debout en statique. C'est plus facile de les faire de cette façon-là que de les faire en mouvement.
Ah, oui,
donc,
oui.
Si vous êtes intéressé à faire ça de façon peut-être avant d'aller corriger la démarche ou simplement parce que vous voulez améliorer votre posture, je vais joindre sur le site là, un peu comme j'ai fait pour l'auto-évaluation et les correctifs de la démarche. Donc, le même texte, mais pour la posture debout en statique.
Et l'auto-évaluation de la posture debout, c'est un peu le même principe. On part, en fait, la même séquence.
Du haut vers le bas ou du bas vers le haut. On fait le survol de la plupart des segments. On peut également s'amuser à... Tu sais, comme par exemple, si je regarde comment le poids tombe sous mes pieds, après, je peux m'amuser à exagérer, donc à amener un petit peu trop de poids sur mes orteils et là, de voir la cascade que ça amène dans le reste du corps.
Mm-hmm.
Donc, dans le cas d'avoir trop de poids sur les orteils, je vais sentir que la musculature à l'arrière du corps se rigidifie un peu pour me retenir. Les genoux peuvent se verrouiller, le bas du dos va se verrouiller. Alors qu'à l'inverse, si je m'amuse à amener trop de poids vers les talons, bien là, je vais voir que les genoux vont plier tout ça. Mes hanches vont se fléchir un peu en même temps. Donc, jouer un peu avec ça, ça va vous aider à comprendre les impacts à distance d'un petit changement.
Et à comprendre le fonctionnement du corps humain.
Exactement.
Bon, alors, encore une fois, merci beaucoup, Michel, et à la prochaine chronique.
Merci, Denis. À bientôt.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Comme toujours, nous espérons qu'il vous a plu. Merci beaucoup à nos invités Diego Herrera, de son nom d'artiste Yayo, et notre chroniqueuse Michèle Cousina-Baudet. Merci également à nos fidèles collaborateurs à la technique Valérian Fournier et Lysandre Duplé. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour Marcher vers le bien-être. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio-VM ou en différé sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour tous les épisodes. Un moteur de recherche vous permet d'ailleurs d'y trouver rapidement les sujets qui vous intéressent et de télécharger les épisodes choisis. Vous pouvez également y laisser suggestions et commentaires sur l'émission. Je vous laisse cette semaine avec une pensée de Thich Nhat Hanh. Le miracle n'est pas de marcher sur l'eau, il est de marcher sur la terre verte dans le moment présent et d'apprécier la beauté et la paix qui sont disponibles maintenant. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine!